Pure Politique.
L'écologie, un thème devenu central dans les discussions politiques, mais aussi dans la société. La jeunesse défile pour le climat. Au Parlement, les députés jurassiens ont dernièrement adopté une résolution déclarant l'état d'urgence climatique. On entend désormais beaucoup parler d'énergie, de ressources naturelles, d'utilisation du sol rationnel ou encore de biodiversité. Mais comment œuvrer pour l'environnement à l'échelle du canton du Jura? Sommes-nous volontaires ou traînons-nous la patte? Avons-nous tout simplement les moyens ou la volonté d'agir? On ouvre la discussion. Bienvenue dans Pure Politique.
RFJ, Pure Politique. Raphaël Chalvera.
Pour échanger ce soir, nous accueillons Erika Henka. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée verte au Parlement jurassien. Bonsoir Gabriel Voirol.
Bonsoir.
Vous êtes députée libérale radicale et vous présidez le Parlement cette année. Pierre-Alain Béret est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes depuis le 1er décembre dernier le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Et autour de la table, enfin, Marc Tourette. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité de Pro Natura Jura, responsable des réserves. Soyez les bienvenus dans cette émission. Des politiciens, bien sûr, mais pas que. Pour parler d'écologie, il nous a semblé bon d'avoir le point de vue de l'économie et de la protection de la nature. Vous allez nous faire part de votre regard, de vos ambitions écologiques, mais peut-être aussi de vos attentes des uns envers les autres. Parler d'action ou d'inaction politique, parler de l'engagement des industriels et du rôle d'associations telles que Pro Natura. On entame un premier tour de table, très général. Gabriel Voirol, est-ce que le politique de tous bords doit aujourd'hui s'engager activement dans ce thème de l'environnement avec ce qui se passe, la percée des écologistes encore observée ce week-end lors des élections européennes? On doit aussi travailler à l'échelle du canton du Jura.
Bien sûr qu'il faut travailler pour le climat. Le climat, c'est un sujet très particulier parce qu'en fait, il s'invite dans tas de domaines. Parce que lorsqu'on en parle climat, on parle bien évidemment mobilité, on va parler construction, on va parler alimentation, enfin tous les thèmes de la vie. Et je crois que si on ne s'occupe pas du climat et des conséquences de notre vie actuelle, bien évidemment qu'on est, je dirais, un peu à côté de la plaque. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être faire un petit commentaire sur le terme d'urgence parce que je me suis dit, mais quel est le bon terme? Parce que ce terme d'urgence, parfois, il peut être pris de différentes façons. Ça peut laisser sous-entendre que jusqu'à présent, personne ne s'en est préoccupé. Je crois qu'il faut là aussi se rendre compte qu'il y a quand même des actions qui sont entreprises, surtout, je dirais, en Suisse en particulier. Je ne parle pas de certains pays comme les USA qui ont du mal à comprendre l'importance de ces enjeux écologiques. Et puis, se dire que si derrière une urgence, souvent les gens disent, mais une fois que c'est passé, la vague est passée, c'est fini. Or non, ce ne sera pas fini parce que le climat, c'est quelque chose qui va nous occuper aujourd'hui, mais surtout demain, et ça nous préoccupait déjà avant. Donc c'est vrai que le terme d'urgence, pour moi, n'était peut-être pas le mot idéal, mais il sert au moins d'aiguillon pour faire prendre conscience que ce thème-là, ben, il fait partie de la vie de tous les jours et on se doit, dans nos actes personnels, mais aussi, non seulement politiques, mais individuels, s'en préoccuper.
Voilà pour cette première position. Erika Henka, vous avez écrit dans une motion déposée tout récemment, je cite, « L'inaction du monde politique est crasse. Pour agir réellement, il est indispensable d'en faire beaucoup plus. » Vous estimez donc que malgré les signaux actuels, le politique ne prend pas la chose au sérieux dans le canton?
Alors, oui, effectivement, je pense qu'on fait pas grand-chose pour le moment. Je veux dire, on est toujours dans le discours, dans les paroles. On dit « faut de l'écologie », c'est dans tous les programmes politiques. Mais si on regarde concrètement autour de soi, il n'y a pas beaucoup de changements qui sont concrets et réels. Le problème, c'est qu'on est face à un effondrement sans précédent. C'est-à-dire qu'il y a des risques, on a vraiment des risques de pénurie, d'arrêt des réseaux d'eau. Et d'ailleurs, dans le canton du Jura, je dirais que ça peut se mesurer, par exemple, en le climat, la météo. Aussitôt qu'il pleut beaucoup, on a des inondations. Quand on a des périodes de sécheresse aussi, et c'est quelque chose qui va nous coûter très cher. Je crois qu'on n'en mesure pas encore l'ampleur. Pour revenir sur ce qu'a dit Gabriel Voirol, je pense qu'on est effectivement dans l'urgence. Et quand on dit urgence, ça signifie qu'on n'a pas fait assez avant. Donc maintenant, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, prendre les mesures. Les jeunes nous le disent, ils le sentent, ils le savent. Et cette problématique de climat, elle se voit ne fût-ce que par la fonte des glaciers. Donc les mesures à prendre, elles sont urgentes et il faut les prendre tout de suite et mettre les moyens nécessaires.
Alors, on va parler justement de ces mesures et des moyens à disposition. Pierre Annaberet, pour l'industrie, on peut toujours avoir aujourd'hui l'image de ces cheminées d'usines qui dégagent de l'épaisse fumée noire, l'image d'entreprises qui produisent beaucoup de déchets, qui consomment beaucoup d'énergie. Où en est-on dans le Jura aujourd'hui ?
Alors, je crois que dans ce domaine, on voit une évolution très concrète, hein, pour rebondir sur ce que disait Madame Henquin à l'instant. Et je prendrai un simple exemple de ce que tout le monde peut voir, c'est la production d'énergie renouvelable. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas une seule centrale de production d'électricité sur les entreprises jurassiennes. La première qui a été inaugurée de ce type, c'était en 2012. C'était la Flaza à Halle, en fait. Et à l'époque, je me souviens de cette inauguration. C'était un événement presque exotique, hein. On n'avait pas du tout l'habitude de voir ça. Et puis aujourd'hui, 6 ans et demi plus tard, eh bien, il y a une centaine d'entreprises qui possèdent des panneaux solaires sur leur toit. Ces entreprises produisent la moitié de l'énergie solaire cantonale aujourd'hui, donc elles sont devenues un acteur majeur. Alors évidemment qu'on peut toujours faire davantage, c'est un premier pas dans un domaine très visible et très intéressant. Donc en l'espace de moins de 10 ans, finalement, il y a une évolution assez conséquente. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une semaine sans que les journaux ne mentionnent aussi des projets. Chaque entreprise qui se développe, qui s'agrandit, intègre maintenant cette dimension-là et je crois que c'est réjouissant.
Premier pas, nous dit Pierre Annaberet. Marc Tourette, parmi les axes de travail de Pronatura, il y a l'éducation à l'environnement et la politique environnementale. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dans la bonne direction ?
Alors, en ce qui concerne l'éducation à l'environnement, on pense on peut vraiment faire de très grosses améliorations. C'est la base, quelque part, hein, parce que pour arriver à prendre conscience de la perte de biodiversité, il y a un récent rapport là, qui a été publié au niveau mondial qui parle d'effondrement de la biodiversité. Hein. C'est un tiers de toutes les espèces qui sont menacées. C'est 100 millions d'hectares de forêts tropicales, par exemple, pour parler quelques chiffres. Bon, mais cette conscience, elle doit naître dès le départ par rapport aux enfants. C'est les enfants qui, déjà, sont les plus sensibles à ce volet-là. Et donc, je pense qu'on a un effort. Et puis, il y a des outils qui existent. On en parlera, on reviendra probablement dessus, mais ça existe déjà à l'école en extérieur, hein, l'école à ciel ouvert. Il y a un livre qui est sorti là-dessus qui indique aux enseignants, qui leur donne plein de moyens pour appréhender, hein, ce nouveau modèle d'enseignement. Donc là, on pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Et Pronatura Jura a un groupe Jeunes et Nature, notamment, qui essaie justement de faire la sensibilisation à l'environnement. Alors, sur ce volet éducation, il y a des choses qui se font, parce que, par exemple, il y a quelques écoles dans le canton du Jura qui pratiquent déjà ce modèle d'enseignement à l'extérieur. Je pense notamment au cercle scolaire Le Bémont-les-Enfers, qui font ça dans les classes de 1 à 6. Ils ont une demi-journée, une journée par semaine en extérieur. Donc c'est faisable, il faut continuer là-dessus. Puis plus généralement, par rapport à Pronatura, c'est l'aspect biodiversité qui nous préoccupe énormément. Et là, il y a beaucoup, beaucoup à faire.
Vous souhaitiez rebondir, Gabriel Voirol ?
Oui, vraiment, parce que ce que vous dites sur l'éducation, c'est pour moi un point extrêmement important. Parce que l'éducation au niveau des enfants, c'est le point de départ. Alors, ce n'est évidemment pas le seul, mais on le remarque, on l'a vu avec les déchets en particulier, lorsque nos enfants sortaient de l'école et puis disent à leurs parents « mais t'as vu ce que tu fais ?» C'est vrai que ça marque et on peut avoir des adaptations et des évolutions au niveau des personnes. Parce que dans le domaine climatique, c'est vrai que ce n'est pas qu'un problème politique, c'est un problème de tout le monde. Je crois qu'on doit tous être partie prenante dans ce défi. Et ça commence par l'école, ça continue avec la formation continue, avec la formation professionnelle. Monsieur Béret citait des entreprises. C'est vrai que même dans les formations des entreprises, maintenant, il y a dans les processus aussi de nombreux intérêts aussi à essayer d'économiser l'énergie. Parce que c'est vrai que par le passé, on avait des politiques qui n'étaient peut-être pas, qui favorisaient pas les économies d'énergie. Aujourd'hui, on doit aller vers cette politique-là. J'ai vu des grands groupes qui finalement faisaient des fois des consommations d'eau extrêmement importantes. Le prix de l'eau ayant augmenté, eh bien, tout de suite, ils se sont intéressés à d'autres systèmes. Et finalement, sans baisser la qualité, ils ont trouvé des solutions. Donc je crois que c'est quelque chose qui se construit tous ensemble et surtout pas les uns contre les autres.
Eric Henke.
C'est intéressant de parler d'éducation, mais il faut vraiment faire attention de ne pas se reposer que sur l'éducation, parce que On peut critiquer aussi, par exemple, les jeunes qui vont dans la rue pour le climat. On leur dit ah, vous prenez l'avion, donc vous n'êtes pas conséquent. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont nés avec un smartphone à la main, qu'on les a conduits lorsqu'ils étaient petits jusque devant les écoles. Et changer ses comportements individuels, ça prend assez de temps et personne n'est parfait. Moi, je pense que les solutions, elles sont collectives et qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les gens qui auraient des comportements qui ne soient pas tout à fait idéaux. Et en fait, les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce sont nous, c'est ma génération, celle d'avant et la suivante qui les ont créés. Et j'estime que c'est d'abord à nous de prendre des mesures, c'est à nous de changer et c'est surtout à nous de montrer l'exemple.
Pierre Naberet.
Oui, moi je suis absolument d'accord avec ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces questions environnementales, on passe un peu par différents états. D'un côté, il y a beaucoup d'optimisme à voir des gens qui font des actions incroyables, qui mettent de l'énergie pour la nature, pour l'environnement, pour la biodiversité. Il y a des gens qui consacrent leur vie à ça et qui le font efficacement. Donc moi, j'ai confiance aussi, quelque part, en voyant tout cela, confiance aussi dans la jeunesse et puis surtout dans les nouvelles technologies, hein, qui permettront aussi de faire des grands pas en avant. Et puis, en même temps, on est quotidiennement un peu dépité quand on voit qu'il y a encore des gens qui jettent leurs déchets par la fenêtre, en voiture, quand on voit des gens qui laissent tourner leur moteur pour dégivrer leurs vitres le matin. Enfin, il y a plein de gestes comme ça. Et moi, en tout cas, je passe toujours un peu d'une extrême à l'autre en me disant « Ok, là, c'est un signe positif et on va y arriver ». Et puis, quelques minutes après, on est déçu, on est même démoralisé face à... Enfin, la nature humaine est un peu comme ça. Elle est capable du meilleur et puis aussi du pire, malheureusement.
Alors, on ressent dans vos discours respectifs cette envie d'aller de l'avant, véritablement forte d'agir. Mais par rapport à ça, la population suisse a une empreinte écologique élevée. Un Suisse prend l'avion 3 fois plus qu'un autre citoyen européen, conduit les voitures les plus lourdes d'Europe. La Suisse a atteint son jour de dépassement le 7 mai, soit le moment où toutes les ressources naturelles dont elle dispose pour l'année 2019 ont été utilisées. Donc, si on ressent cette volonté d'agir, pourquoi, Marc Tourette, sommes-nous si mauvais élèves ?
Alors, à des causes aussi complexes, la réponse est forcément complexe. Hein. Je veux dire, pourquoi si mauvais élèves ? C'est vrai que le fait d'avoir accès à beaucoup de richesses, on est dans un modèle de consommation. Donc forcément, dès l'instant que le pouvoir d'achat est assez élevé, ben derrière ça, la consommation, elle augmente. Donc là, on revient... Enfin, pour nous, pour Natura, il nous semble, encore une fois, l'éducation... Mais alors, là, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas reposer la survie de la planète sur nos enfants. Hein. C'est déjà maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir, parce que... Voilà, par rapport à l'effondrement des insectes, notamment, on estime que s'il n'est rien fait, c'est dans quelques décennies qu'il n'y aura plus d'insectes. Et ça remet tout en question le fonctionnement de nos écosystèmes. Donc c'est évidemment nous, les adultes, tout le monde qui doit mettre la main à la pâte pour avancer là-dessus.
Gabriel Varol.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une explication, c'est en effet un problème complexe. Et c'est vrai qu'on hérite aujourd'hui de toutes les actions qui sont passées. Et je pense que la Suisse essaye d'évoluer, tout un chacun essaye d'évoluer de son côté. Ce que je constate, en tout cas au niveau des décisions politiques, si on a par exemple des investissements à faire, il y a une certaine évolution dans l'approche d'investissement. Il y a quelques années, seul le montant de l'investissement avait de l'importance. On comparait juste le total qui se trouvait en bas. On est arrivé dans une étape où finalement maintenant on parle aussi de frais de fonctionnement, sachant quel est le coût d'investissement et de fonctionnement. Et maintenant on commence à parler aussi de durabilité, c'est-à-dire dans le choix, est-ce que le prix va être élevé à l'acquisition, combien de ça va nous coûter pour le fonctionnement et combien de temps ça va durer. Donc je pense qu'il y a aussi une évolution de ce côté-là qui est positive.
Pierre Nabaret et puis Marc Touret.
Quelques chiffres, hein, peut-être, pour illustrer un peu cette thématique et le fait que la Suisse soit effectivement un gros consommateur d'énergie. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est un peu de voir les tendances. Et on voit quand même qu'avec tous les efforts qui sont entrepris, avec aussi l'arrivée de nouvelles technologies, on parvient quand même à réduire notre empreinte. Et ça, je pense que c'est quand même une nouvelle encourageante. Alors, probablement qu'on ne va pas assez loin, mais en tous les cas, ce qu'on observe quand même, c'est qu'entre 1990 et 2017, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre se sont réduites d'environ 12%. Et dans le même temps, la population a augmenté de 25%. Le nombre de véhicules a augmenté de 50%. Le produit intérieur brut a augmenté de 51% et le nombre de logements de 38%. Ça veut dire qu'on a une croissance forte en Suisse. On est un pays dynamique avec une forte croissance et je pense qu'il faut s'en réjouir puisque ça permet aussi de créer des emplois et d'avoir un niveau de vie élevé. Tout cela n'est pas totalement incompatible avec une préservation ou en tout cas la prise en compte d'intérêts environnementaux, puisqu'on voit quand même qu'on arrive, pendant le temps de cette croissance, à réduire notre empreinte. Et ça, c'est quand même un signal positif.
Vous souhaitiez rebondir, Marc Touret.
Oui, je voulais relever le fait que vous parliez de la Suisse mauvais élève au niveau dans certains domaines. Mais il y a un domaine, par exemple, c'est la consommation de produits bio. Là où la Suisse est premier consommateur mondial par habitant de produits bio. Et donc, dans ce domaine-là, ça révèle une véritable prise de conscience, hein, parce que l'alimentation, c'est vraiment, ça a un impact considérable sur notre paysage. Hein. C'est l'agriculture, c'est le mode aussi après de distribution, et puis évidemment, c'est la responsabilisation du consommateur. Et avec cette augmentation de la consommation bio, ça dénote quand même une certaine prise de conscience. Et je pense que là, c'est une voie, c'est un levier d'action où on a une marge énorme. L'agriculture bio dans le canton du Jura, c'est 19,4% à l'heure actuelle. Pourquoi on ne tendrait pas vers 100%? C'est tout à fait envisageable, puisqu'il y a la population qui le demande. Hein. On sent qu'on est obligé, on voit dans les magasins, on est dans les grandes surfaces, beaucoup de produits bio proviennent de l'étranger. Pourquoi on n'arriverait pas à les produire ici, chez nous? Donc là, Et puis, on sait, par exemple, avec la biodiversité, la production bio, il y a une augmentation de 30% de la diversité des espèces. C'est un moyen, c'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen d'aller dans le bon sens. Donc là, il y a une... Je veux dire, tous les feux sont au vert. Il faut foncer.
On va juste recentrer un tout petit peu le débat et le ramener aussi à l'échelle du canton du Jura en parlant de réchauffement climatique. C'est une préoccupation majeure. Il y a, Eric Heinquin, les mesures internationales comme l'accord de Paris, une politique nationale. Mais que peut-on faire en termes de réchauffement climatique à l'échelle du canton du Jura? Quelles seraient vos pistes principales?
Alors, je viens de déposer une motion au Parlement jurassien qui demande un vrai plan pour les économies d'énergie, parce que le plus facile, en fait, pour diminuer les émissions de CO2, c'est de ne pas consommer le plus d'énergie possible, disons. Ensuite, je dois quand même dire que... il y a eu un rapport qui est sorti récemment, je crois aujourd'hui, et qui dit qu'en fait, au niveau des énergies renouvelables, parce que c'est sur ça aussi qu'on doit se centrer, puisqu'on doit arriver à zéro émission ou quasiment zéro émission d'énergie de CO2 d'ici 2030, donc il faut qu'on produise une partie de l'énergie de manière renouvelable. Et la Suisse produit, par exemple, 8 fois moins d'énergie solaire et éolienne que l'Allemagne, 10 fois moins que le Danemark. Donc là, il y a un réel problème, il y a un réel manque de volonté, et il faudra vraiment prendre le taureau par les cornes et trouver le moyen de produire cette énergie renouvelable. On sait d'ailleurs, c'est l'Office fédéral de l'énergie qui estime que la Suisse pourrait produire plus d'énergie solaire qu'elle ne consomme d'électricité. Donc c'est possible, On a des pistes, maintenant il faut trouver les moyens financiers.
Alors les moyens, on va y venir, mais juste par rapport aux pistes encore, puisque Eric Henka, vous parlez du développement d'énergie renouvelable, d'énergie propre. Gabriel Voirol, dans le Jura, on parle énormément d'éoliennes, on parle de géothermie avec notamment le projet Haute-Sorne, et ces projets-là, ils ont du plomb dans l'aile parce qu'on s'y oppose fortement, ça gâche le paysage, il y a des risques de séisme. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à contre-courant? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Il y a une volonté de développer les énergies renouvelables, mais on ne veut pas de géothermie et on ne veut pas d'éoliennes. On fait quoi?
Oui, je pense que c'est regrettable de ne pas pouvoir aborder des fois ces sujets-là. C'est vrai que c'est des sujets passionnels qui ont tous leurs spécificités. Hein. À titre personnel, c'est vrai que j'estime qu'il y a des produits qui sont extrêmement dangereux, comme le nucléaire, qui quelque part, si un accident devait arriver, ce n'est pas nous qui allons le payer, c'est les générations futures, donc on a cette responsabilité. Lorsque l'on a parfois, dans certains séismes ou techniques d'utilisation, parce que dans la géothermie profonde, encore faut-il voir quel type de géothermie on parle, parce qu'il y en a plusieurs et ils n'ont pas tous les mêmes impacts au niveau sous-sol et au niveau ressources. Et puis l'éolien, c'est vrai que si, certes, il y a des personnes qui sont opposées, si c'est fait correctement, ça doit être accepté. Et puis c'est quelque chose qui est démontable.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses correctement aujourd'hui? C'est ce que vous nous dites. On ne fait pas les choses correctement aujourd'hui.
Disons, peut-être la première expérience qui a été faite était peut-être mal réussie, dans le sens où elle a été faite trop près de Saint-Bray, qui a été faite trop près des maisons. Donc il n'y a pas eu de réflexion approfondie sur la meilleure localisation. Et c'est vrai que ça a faussé un peu tout le débat au niveau local. Mais je suis d'accord qu'au niveau des énergies renouvelables, mais aussi au niveau des économies, au niveau des bâtiments, il y a vraiment aussi de grosses choses à faire pour économiser aussi cette énergie, qui est une grande partie de l'énergie que l'on consomme. On manque aussi beaucoup d'indicateurs, en particulier sur le CO2. Et ça, c'est pour le monsieur tout le monde, c'est extrêmement compliqué parce qu'on en entend parler, mais on n'arrive pas à le mesurer comme avec un thermomètre ou avec des chiffres que l'on a tous les jours.
Marc Tourette, comment se positionne ProNatura par rapport aux éoliennes et puis à la géothermie? Les éoliennes, ça peut gâcher le paysage, donc ça ne peut ne pas vous plaire. La géothermie provoquer des séismes, ça peut ne pas vous plaire non plus. Quelle est un petit peu votre position par rapport à tout ça?
Alors, il y a une position commune avec d'autres associations de protection de l'environnement qui est présentée. Pour les éoliennes, évidemment, il y a la prise en compte de la biodiversité qui est pour nous primordiale. Donc, on est favorable au développement de l'éolien, mais avec justement cette prise en compte en priorité de la conservation de la biodiversité. Ça veut dire qu'on privilégierait l'installation d'éoliennes dans des zones, par exemple industrielles, des zones où il n'y a pas un impact sur le paysage et sur la biodiversité. Par exemple, l'impact sur les oiseaux migrateurs, sur les chauves-souris, ça c'est très documenté. Donc voilà, l'éolien ne peut pas être la panacée pour remplacer le nucléaire et les énergies fossiles en Suisse et dans le Jura. En revanche, moi je trouve qu'il y a une source d'énergie renouvelable qui est complètement, et là je vais dans le sens de Madame Henquin, qui est complètement sous-utilisée, c'est le solaire. Le solaire, il y a très peu d'impact sur l'environnement.
Qui n'apporte plus grand-chose au privé, qui pose des panneaux.
Oui, mais le but, ce n'est pas de rapporter de l'argent, c'est de substituer la production d'énergie fossile et nucléaire par une autre source d'énergie. Donc, et on sait très bien que le nucléaire, il est largement subventionné par rapport à la gestion des déchets, que les énergies fossiles, c'est un peu la même solution. Il y a plein de banques qui vont financer les extractions dans les pays en voie de développement. Donc, le débat n'est pas tellement sur le coût. Le débat est comment produire de l'énergie propre demain. Et là, le solaire, avec le thermique, qui lui permettrait de remplacer le chauffage de l'eau sanitaire, et puis, dans bien des cas, le chauffage même central. Le thermique, c'est une technologie toute simple. Et puis, le photovoltaïque, pour produire de l'électricité, comme M. Béret le mentionnait, les entreprises, là-dessus, ont un rôle énorme à jouer et le font bien. Et puis, il faut continuer là-dedans.
Alors justement, Pierre-Alain Béret, on parle souvent d'échéance à long terme, comme la stratégie énergétique 2050. On vise dans celle-ci une réduction de la consommation d'énergie de 43% d'ici 2035. Ça n'incite pas ces longues dates, cette longue période à l'action immédiate, non? Est-ce que l'industrie, par exemple, ne peut pas se dire qu'elle a le temps?
Non, je ne crois pas. Et peut-être par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Tourette, et concernant le prix, moi, je pense que pour que ces nouvelles technologies, justement, aient une chance de s'imposer et de se généraliser, à mon avis, il faut remplir deux conditions principalement. La première, c'est qu'elles deviennent efficientes. On le voit par exemple avec les véhicules électriques. Si on pense au début des véhicules électriques, eh bien, ils avaient une autonomie très limitée. Il fallait un temps fou pour les recharger. Ils n'avaient pas les performances d'un véhicule à essence. Et petit à petit, cette technologie s'est améliorée, ce qui fait que les gens commencent à envisager la possibilité d'en acquérir. Ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième, je pense quand même que c'est le prix, surtout pour des produits de grande consommation comme des véhicules, par exemple des vélos électriques. S'il y a un différentiel trop important, eh bien, malheureusement, les gens vont faire le choix de la solution, la meilleure marché, peut-être classique. Par contre, on voit très bien ici aussi, dans ce domaine de la voiture électrique, notamment pour prendre cet exemple, à partir du moment où ces véhicules ont des performances comparables à un véhicule à essence et que le prix est également comparable, alors on va peut-être être d'accord de mettre un petit peu plus, mais il faut que le prix soit comparable. Là, on est dans une logique où la technologie peut s'imposer très largement.
Et où l'industrie a un rôle à jouer.
Et l'industrie, bien sûr, a un rôle à jouer, et je crois qu'elle le fait. Et là, on a vraiment tout un champ d'innovation aussi qui est encore totalement inexploré. Et je pense que peut-être les pouvoirs publics doivent soutenir aussi toute cette innovation dans les entreprises pour ces produits, pour ces technologies propres, afin d'accélérer ce développement qui se fait déjà. Il y a de multiples instituts et de multiples entreprises qui travaillent là-dessus. Mais là, je pense qu'on pourrait donner un coup de pouce aussi pour innover davantage et permettre à ces technologies de s'imposer le plus vite possible.
Alors, les mains se lèvent, peut-être d'abord, Eric Anka.
Pour le climat, donc, il y a d'autres pistes. J'ai parlé tout à l'heure des économies d'énergie. C'est fondamental. Mais il y a aussi ce qui a été dit aussi, l'isolation d'urgence des bâtiments, vraiment de tous les bâtiments, parce que plus il fera chaud, plus il faudra mettre des clims. Et les clims, on sait, c'est des grands consommateurs d'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose d'urgent, surtout que les étés sont extrêmement chauds. Mais il y a une deuxième chose, c'est la mobilité. Et là, il y a vraiment un grand travail à faire. C'est un tiers des émissions de CO2. Et là, je m'adresse à Monsieur Béret. Que fait l'industrie? Que font les industriels? Parce qu'en fait, il y a une motion aussi qui a été déposée par Yvan Godard, qui demande de rendre obligatoires les plans de mobilité des entreprises qui ont plus de 20 EPT. Et ça, c'est quand on pense et quand on voit que les gens qui travaillent dans nos entreprises font des dizaines, voire des centaines de kilomètres tous les jours. Donc on voit aussi toute l'urgence de mettre en place ces plans de mobilité. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Réaction, Pierre Lambert.
Je vous le donne très volontiers. Donc les plans de mobilité sont certainement de bons instruments pour améliorer la situation de mobilité des entreprises. Nous disons notre réaction par rapport à cette norme de 20 EPT dans les entreprises. On trouve que c'est excessif. Et surtout, ça nous paraît malheureusement pas tellement adapté aussi à la configuration de la région, avec pas mal d'éparpillements des entreprises qui ne sont pas forcément au bord des gares, au bord de grands axes de communication. Et on craint, disons, qu'avec une norme telle que celle-là, on ait un peu une usine à gaz, je dirais, pour de très faibles résultats. C'est ça l'idée. Maintenant, encore une fois, sur le principe, je pense que beaucoup d'entreprises d'une certaine dimension ont déjà élaboré des plans de mobilité, avec des effets d'ailleurs. Ce qu'il faut dire aussi ici, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, si on prend par exemple la problématique des travailleurs qui viennent de France voisine, puisqu'on en parle beaucoup, les tunnels sont engorgés tous les matins, tous les soirs, il y a beaucoup de monde qui vient de d'Ajoie et de France voisine sur de Léman.
Et la ligne d'Elbeuf-Fort ne fonctionne pas encore convenablement.
Alors justement, mais c'est là-dessus que j'allais venir. C'est clair que si la solution alternative, c'est une ligne qui oblige, disons, les frontaliers à mettre peut-être 20, 30 minutes, 40 minutes de plus, et puis en plus avec des coûts supplémentaires, bah forcément que ça ne va pas fonctionner. Dès le moment où l'alternative sera comparable.
Donc là, vous renvoyez aux politiques.
Mais oui, parce que l'infrastructure, elle existe, mais manifestement, elle ne fonctionne pas bien, elle n'est pas attractive. Et encore une fois, moi, je pense que les gens sont prêts à faire des sacrifices dans une certaine mesure, et on le voit très bien nous-mêmes. quand on se déplace, si on perd 5 ou 10 minutes, on va encore le faire sur un déplacement d'une certaine ampleur. Si vous doublez votre temps de déplacement et puis qu'en plus de ça, ça vous coûte plus cher, je pense qu'il y a assez peu de chances que ça fonctionne. Voilà.
Gabriel Voirol, Eric Hannequin évoquait les bâtiments, la rénovation aussi un facteur très très important. 50% sont toujours chauffés au pétrole. Est-ce qu'on encourage, et notamment dans le Jura, suffisamment au changement? Est-ce que les subventions, elles sont suffisamment attractives?
Alors les subventions, je voulais en parler sur un autre thème, parce qu'avant on a parlé aussi des panneaux solaires photovoltaïques qui ont fait l'objet de
subventions. Allez-y.
C'est vrai, ce qui est important aussi dans ce domaine-là, c'est, comme ça a été dit, de soutenir l'innovation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'une technologie mérite d'être poussée, d'être mise en avant, là les pouvoirs publics doivent pouvoir donner justement l'impulsion nécessaire. À un certain moment donné, lorsque des panneaux solaires maintenant, subventionner des panneaux photovoltaïques aujourd'hui, n'a plus beaucoup de sens. Donc il faut savoir aussi évoluer dans la manière dont le politique veut aider en fait l'installation. Pour moi, ce qui est problématique un petit peu dans notre système, mais c'est un problème qui est peut-être aussi un problème, je dirais, de notre parc immobilier. On a un parc immobilier vieillissant, mais on a aussi une manière de faire au niveau des intérêts qui font que les gens ont du mal à amortir et puis après à investir aussi dans de l'assainissement. Aujourd'hui, les rénovations sont parfois encore trop chères parce que finalement, celui qui rachète un bâtiment, il le rachète souvent au-delà du prix qu'il devrait pouvoir le payer.
Donc on doit davantage les aider.
Donc il faudrait aussi avoir une action sur l'incitation à réduire sa dette pour pouvoir justement ensuite assainir ses bâtiments. Lorsque c'est des familles qui reprennent après un décès, ben souvent elles ne veulent pas le vendre à perte. Et malheureusement, si elles le vendent à perte, c'est des bâtiments qui sont achetés mais qui ne sont pas rénovés et pas assainis. On est aussi trop, il y a trop de complexité dans les mesures administratives pour les subventions. Il y a des subventions, j'en ai fait l'expérience. C'est vrai qu'à un moment donné, on a tendance à dire « Oh ben, si c'est aussi compliqué que ça, j'abandonne ». Donc il faut qu'on trouve aussi des solutions simples pour pouvoir permettre des subventions.
L'heure file, il nous reste à peine un peu plus de 5 minutes dans ce débat. J'aimerais juste encore vous entendre sur l'utilisation du sol, qui est aussi un domaine dont on parle beaucoup. On est aujourd'hui à un serrage de vis, il y a aussi la nouvelle latte. Quel message doit-on véhiculer dans le Jura, Pierre-Alain Béret, notamment auprès des entreprises qui veulent se développer ou s'agrandir?
Alors cette question est très très importante. On a aujourd'hui des entreprises qui aimeraient se développer, s'agrandir et qui ne peuvent pas le faire, tout simplement. Moi, je discutais l'autre jour avec un chef d'entreprise. Il me disait qu'il a des affaires qui sont en train de lui échapper parce que malheureusement, il ne peut plus développer son outil de production là où il se trouve. Donc c'est quand même dramatique d'arriver à des situations comme celle-là. Et je pense que là aussi, on revient un peu à la notion d'équilibre. Hein. C'est toujours une recherche d'équilibre et je crois que c'est l'art aussi de la politique de chercher des équilibres. Bien sûr qu'il faut utiliser le sol de manière efficiente. Bien sûr qu'il ne faut pas gaspiller notre environnement. Personne n'a en tête de bétonner tout le Jura. D'ailleurs, c'est une de nos richesses, hein, ces paysages et cet environnement naturel. Mais il faut aussi qu'on ait suffisamment de flexibilité pour qu'on puisse se développer. Parce que sinon, eh bien, on va finir comme une réserve d'Indiens. Et je crois qu'on n'a pas envie du tout de cela non plus. Donc il faut vraiment trouver un équilibre, une flexibilité entre le nécessaire développement de nos entreprises, de l'habitat également pour les personnes qui viennent s'établir chez nous et puis la préservation de l'environnement.
Qu'est-ce que vous répondez à cela, Marc Tourette? Est-ce que le Jura atteint une limite en termes de construction ou est-ce que, comme le dit Pierre-Alain Béret, il faut quand même laisser la porte ouverte à des agrandissements, donc à l'utilisation du sol pour des agrandissements d'entreprises ou de construction de maisons?
Nous, ce qui nous préoccupe surtout, c'est plus le mitage du territoire. Donc, on ne s'oppose pas à l'agrandissement des entreprises. La nouvelle latte va permettre justement de densifier, d'utiliser les dents creuses à l'intérieur des agglomérations. Donc, c'est pas vraiment bloquer le développement. En revanche, ce qui peut avoir un impact plus important, c'est... De nouveau, par rapport à la conservation de cette biodiversité, il faut bien avoir en tête que cette biodiversité, c'est le tissu qui nous permet de vivre. Hein, ça s'est forgé pendant des milliards d'années et c'est ce qui a rendu la planète habitable. Donc c'est ça qu'il faut vraiment penser à préserver. Alors, on pense que c'est plus sur le volet agricole que des efforts sont à faire pour un meilleur usage des sols, quoi. Et puis, pour un usage plus durable... C'est en lien aussi avec le réchauffement climatique, parce que Mme Henquin parlait de la mobilité, mais les émissions de l'agriculture chimique industrielle, c'est 20% quand même des gaz à effet de serre. Donc, une modification de la pratique agricole, ça va dans le sens d'un meilleur usage des terres, donc une optimisation finalement de cet usage sur le long terme, et puis en même temps une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Puis, voilà.
Ce qu'on veut dire. Oui, on veut juste encore écouter l'avis des politiques sur cette question d'utilisation du sol. Erika Henquin, que dit une députée verte aux privés et aux entreprises qui veulent construire, s'agrandir ?
Écoutez, les problèmes climatiques sont d'une telle ampleur aujourd'hui que la population en est consciente. La population en est consciente, les jeunes en ont conscience. Et puis, on se rend compte donc, en fait, que les partis politiques qui parlent de climat, ont en fait le vent en poupe. Donc, il faut prendre maintenant des mesures qui soient, je dirais, assez radicales, mais tout en restant dans la discussion, et puis ne pas être trop intégriste, je dirais. Donc, pour les entreprises. D'un autre côté, je dirais que quand une entreprise s'agrandit, c'est pas forcément pour employer du personnel local, parce que c'est ce qu'il faudrait faire en fait. Il faut que les gens habitent plus près de leur lieu de travail. Donc là aussi, il faudra faire des efforts. Il faudra se dire comment est-ce qu'on peut rapprocher les gens de leur lieu de travail. C'est pas non plus une bonne qualité de vie quand il faut faire des kilomètres et des heures de transport chaque jour. Donc je dirais que pour en ce qui concerne l'utilisation du terrain, il faudrait maintenant bloquer et, comme dit Monsieur Tourette, utiliser les possibilités qu'on a déjà, construire vers l'intérieur et ne plus s'étendre. On aura besoin de ces terres pour se nourrir, parce qu'on ne pourra pas toujours importer la nourriture telle qu'on le fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas très écolo non plus, c'est pas bon pour le climat non plus.
Un quart de phrase, Père Alain-Béret, un quart de phrase.
Oui, je trouve quand même un peu douteux l'amalgame qui est fait entre le développement d'une entreprise et l'emploi de personnel externe qui doit faire des déplacements. Les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour employer du personnel local quand elles en trouvent sur place. Et pour moi, j'y vois aucun lien. D'ailleurs, si une entreprise se développe, c'est parce qu'elle a des affaires qui sont florissantes, qui vont bien, qu'elle a besoin de surfaces supplémentaires, qu'elle a des clients supplémentaires. Et donc, je pense qu'on doit vraiment tout faire pour qu'au niveau de l'aménagement du territoire, on puisse favoriser cela.
S'il vous plaît, non, on est au bout, je suis désolé.
Les gens de leur lieu de travail.
30 secondes en bon président du Parlement que vous êtes, Gabriel Voirole, pour faire respecter le timing. 30 secondes.
Ça va être compliqué. Non, dire que les entreprises que l'on côtoie et qui souhaitent se développer, c'est vrai qu'elles sont aussi conscientes de leurs responsabilités, parce que souvent, ils viennent nous voir en disant on essaye aussi de construire sur deux étages. Nous, avoir des parkings autour, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir développer nos entreprises. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des fois, elles sont bloquées et par des situations un peu intégristes, on n'arrive pas à trouver de solution. Développer vers l'intérieur, tout le monde est d'accord. Mais comme je disais avant, il faudra aussi parfois raser des bâtiments pour les reconstruire. Et pour ça, il faut une politique qui assure justement que ces bâtiments ne soient pas, je dirais, grevés d'hypothèques trop élevées.
C'est un débat en soi, on en reparlera. Promis, merci beaucoup à vous tous d'être venus dans Pure Politique. Vous retrouverez cette émission en podcast d'ici quelques minutes sur rfj.ch. Rendez-vous le 3 juillet pour le prochain numéro. Très belle soirée.
RFJ, Pure Politique.